Vibrant, vibrante, le podcast qui brise les tabous de la sexualité.
Je trouve pas de plaisir dans ma sexualité, parce que c'est celle qu'on m'a dictée.
Mettre son doigt dans son vagin,
qu'est-ce qui va faire qu'on va aussi arrêter de se juger entre nous les femmes?
On parle d'énergie sexuelle dans le tantra, et pas forcément de sexualité ou de sexe.
On n'a pas passé 2 mois sous la couette quand même?
Non. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibrante. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet on ne peut plus tabou, un mot un peu sulfureux pour certains, certaines. On va parler de fétichisme. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce mot, peut-être que vous avez déjà pratiqué aussi le fétichisme, mais on va en savoir davantage parce qu'on reçoit Kevin Yeux. Bienvenue Kevin Yeux.
Merci, bonjour.
Alors déjà, avant d'en parler plus en détail, c'est quoi ta définition à toi du fétichisme ?
Alors, pour moi, la représentation du fétichisme ou du fétiche, ça peut être une matière, une odeur, une position qui apporte un intérêt sexuel qui peut être physique ou mental.
Ok.
Donc, ça peut être une matière comme le cuir, le latex, le PVC, j'en passe. Ça peut être une position, par exemple, le plus connu, ça peut être le talon. Donc la position du pied en hauteur qui donne un attrait particulier. Ça peut être une odeur liée à une matière, liée à une expérience personnelle qui apporte cet effet de fantasme et de plaisir personnel.
Et toi, Carole, quelle est ta définition ?
Alors, ma définition, c'est surtout que c'est un sujet très tabou. On dit encore aujourd'hui que les gens qui sont fétiches, qui font du fétichisme, que c'est de la perversion. Donc ce qui n'est pas le cas, c'est, et puis on attribue toujours ça en général aux hommes, hein, aux hommes hétéronormés, et que le fétiche c'est pour toute personne, d'accord. Et le fétiche c'est l'utilisation d'un objet inanimé, ce qui veut dire que notre excitation passe par autre chose que par le corps. Génitale ou par une autre partie du corps, et que ça peut être différentes choses. Et Kevin en a une liste
énorme.
Énorme.
Mais avant, justement, il y a ce cliché-là, fétichiste des pieds. Ça, oui. Ça a été le...
Oui, c'est le plus connu, ou des sous-vêtements féminins pour les hommes, enfin, mais... c'est vrai que dans notre pratique, on parle plutôt de... C'est toujours les hommes. Il y a très peu de femmes qui se disent fétiches, mais il y a aussi plein de femmes qui sont fétiches, mais encore une fois, elles n'osent pas l'avouer, qu'elles ont une partie sur quelque chose qui les excite.
Puisque ça renvoie à quelque chose dans l'imaginaire collectif, de pervers, de sale, de négatif. Quoi.
La femme, de manière générale, a une sexualité plutôt cachée, et à partir du moment où elle est assumée, tout de suite, ça part dans des proportions un peu de jugement.
Encore une fois, on est traité de salope. Hein.
C'est ça.
Faut pas se mentir.
C'est la vierge ou la pute. Hein.
Exactement, il n'y a pas de demi-mesure.
Et pour autant, c'est quelque chose à découvrir, pour effectivement, dans ses pratiques sexuelles.
Tu nous as un peu teasé dessus, Carole. Quels sont justement... parce que tu disais, Carole, que Kevin Yeux avait une liste énorme. Alors peut-être pour les personnes justement qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore, peut-être donner quelques exemples de fétichisme.
Moi, je suis multifétichiste. Après, je voulais juste faire un petit point aussi. Souvent, on n'arrive pas à bien distinguer le fétichisme des pratiques SM. Elles sont souvent liées. Elles ne sont pas exclusives, et donc pour moi j'essaie de dissocier au maximum le fétichisme des pratiques BDSM. Donc dans le fétiche pur et dur, j'aime par exemple le cuir, le latex, le PVC, les combinaisons NBC, les doudounes.
NBC, tu peux préciser?
NBC, c'est nucléaire, bactériologie, chimie. C'est les combinaisons de protection chimique. C'est bien particulier, je sais. donc c'est les principales, c'est les principaux fétiches. Après, ça peut être aussi le sportwear, les uniformes. J'en ai quelques-uns d'ailleurs.
La barbe, tu m'avais dit.
Alors, je suis pogonophile. En effet, donc ça, tout à l'heure j'ai parlé du fétiche vestimentaire, et là c'est plutôt le fétiche physique. J'aime, je suis homosexuel, je suis gay, et j'aime les hommes barbus. Et donc en effet, j'ai un attrait particulier pour la barbe. Donc j'ai une expérience qui peut être rigolote à partager. J'ai un ami avec qui on flirtait il y a quelques années, militaire bien baraqué comme il faut. Il me plaisait moyen, mais bon, il me plaisait quand même. Et puis donc on s'est amusé, etc. Et sans plus. Et quelques mois après, je l'ai revu barbu. Et là, je suis tombé mais red dingue de lui. C'était la même personne, mais le fait qu'il ait la barbe, ça l'a rendu pour moi sexuel. Donc très attrayant, et j'avais vraiment envie d'aller beaucoup plus loin à ce moment-là. Donc c'est ça qui m'a fait dire bah tiens, il y a quelque chose au niveau de la barbe qui est vraiment différent. Et c'est un peu pour moi la définition du fétichisme, ça permet d'embellir la personne ou de rendre un peu plus intéressante avec qui, le partenaire avec qui, le ou la partenaire avec qui on veut s'amuser.
Tu parlais d'une découverte à toi d'un fétiche. Est-ce que tu peux nous raconter, alors je ne sais pas si on découvre le fétichisme ou si c'est tout simplement inné en soi et à un moment donné, comme là tu viens de le raconter, il y a un élément déclencheur qui fait qu'on se dit « Ah tiens, j'aime ça », mais à quel moment tu es rentré dans le fétichisme? Quelle a été cette prise de conscience, ce moment où tu t'es dit « Ah ça, j'aime ces pratiques-là » ?
Je peux répondre à ta question, Laura, sur le fait qu'effectivement, on ne sait pas à quel moment notre cerveau construit cette excitation sexuelle, parce que ça peut être très jeune dans notre enfance. Parce qu'évidemment, on ne fait pas d'études là-dessus parce que ce n'est pas bien.
Bah non,
d'accord.
La classique.
Et après, c'est intéressant, effectivement, de se voir à quel moment, grâce à des différentes pratiques sexuelles, d'expériences sexuelles, ça arrive dans notre... à quel âge, à quel moment. Donc, Kevin, à quel moment c'est arrivé chez toi?
Moi, j'ai découvert ma sexualité de manière générale, grâce à Internet. C'est-à-dire que j'ai vécu dans une petite ville où il n'y avait pas grande possibilité de rencontrer du monde. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à chatter lors de mon adolescence. Quasiment pendant 2 ans, j'ai essayé un peu de découvrir qui j'étais avec différentes personnes. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 16 ans à peu près, je n'avais aucune sexualité. C'est-à-dire que ni les hommes, ni les femmes, ni rien ne m'intéressait. Et du fait de communiquer comme ça avec des gens par Internet, j'ai eu la chance de rencontrer des gens intelligents qui m'ont fait prendre conscience de manière pédagogique et sécuritaire donc ces différents attraits. Et j'ai compris en effet que, un, j'étais dirigé vers l'homosexualité, et de 2, lié au fétichisme, et de 3, vers le BDSM. Donc c'était vraiment un package complet, et c'est grâce à ces échanges constructifs que j'ai eus sur Internet où j'ai pu assumer très rapidement qui j'étais et ma sexualité. A posteriori, parce que maintenant que j'ai 35 ans, j'ai un peu de recul.
Un peu d'expérience.
C'est ça. en discutant comme ça avec les amis du même groupe, et pas du même groupe d'ailleurs, on pose souvent la question, tiens, mais d'où ça vient? Quelle est ta première expérience fétichiste? Je pense que, de mémoire, ma première expérience fétiche, mais non sexualisée, c'était en mon enfance. Et j'ai 2 événements principaux qui me viennent en tête. Le premier, c'était quand je devais avoir 4-5 ans, j'étais gardé par une nounou. Et dans le garage, il y avait des bottes en caoutchouc. Et je me souviens que j'allais souvent autour des bottes en caoutchouc. J'aimais bien cette odeur, sans avoir d'attrait particulier sexuel. Mais je sais que j'avais cet attachement bien particulier sur ces bottes. Je me souviens, elles étaient vertes. Il y a des choses comme ça qui sont un peu marquantes.
À l'époque, à la campagne, c'était souvent vert.
Voilà, c'est peut-être. Mais je me souviens où elles étaient placées, comment elles étaient placées, etc. Donc ça m'a vraiment marqué. J'ai une image assez forte là-dessus. Et quand je devais avoir 8-9 ans, mes parents étaient bijoutiers et ils allaient dans des salons de bijoux. Et je me souviens qu'il y avait une machine qui permettait de nettoyer les bijoux. Et cette machine avait des gants en caoutchouc. Et je me souviens que j'avais toujours les mains dans cette machine. donc dans les gants. Et mes parents me cherchaient souvent et j'étais souvent les mains dans cette machine sans aucune raison, et particulière en tout cas quand on est enfant. Et pareil, j'aimais bien ce côté texturé et cette odeur particulière du caoutchouc. Donc c'est les deux souvenirs les plus anciens que j'ai qui peuvent faire le lien avec...
C'est super intéressant, ouais.
Et puis c'est surtout, merci d'avoir partagé ça, Kevin, parce que l'idée, c'est qu'on sait que ça se construit dans notre enfance, mais c'est sur des petites choses comme ça qui paraît anodin, l'enfant, on ne sait pas pourquoi il fait ça, mais c'est ce qui après nous amène effectivement dans ce cheminement, et qu'on oublie ça, mmh. et que les gens, quand ils viennent en consultation, se disent « ouais, mais je suis pas normale en fait mmh. ». si... Alors, des fois, c'est pas nécessaire d'aller chercher la cause, enfin, la raison mm-hmm. de pourquoi, mais je pense à un de mes patients, c'était les collants en nylon. C'était le souvenir de sa maman, les jupes et tout. Bon, alors, c'est un peu un cliché ce que je dis là, mais ça vient sur des petites choses qu'on se rappelle plus. Mais allons vivre ce qu'on a à en vivre, même si on se rappelle plus ce qui s'est passé dans notre enfance.
Et moi, j'ai envie de poser la question, est-ce qu'on n'est pas tous fétiches ? Tous, toutes fétiches ?
Tous, je ne sais pas. Après, on a certainement des affinités particulières, conscientes ou inconscientes. Mm. Par exemple, ça peut être le maquillage. C'est cette odeur, cette texture. Mm. Quand on embrasse des lèvres avec du rouge à lèvres, il peut y avoir ce goût, cette sensualité. Mm. Ça peut être quelque chose de commun et pas forcément en prise de conscience. Je pense que chacun voit son fétiche plus ou moins assumé.
Parce que oui, il peut peut-être y avoir des fétiches qui restent en fait dans les fantasmes. On en revient toujours à ce sujet-là, non ?
Après, c'est de se demander qu'est-ce qui m'excite.
C'est ça.
Quoi, qu'est-ce qui m'excite ? Si je me pose cette question-là, je peux aller répondre à effectivement est-ce que ça va être le latex ? Est-ce que c'est de voir mon mec en string ? Qu'est-ce qui va me le parfum ? Ça peut être quelque chose aussi que tu mets un parfum sur n'importe quel autre corps, ça va déclencher une excitation. Donc c'est qu'est-ce qui m'excite ?
Après, voilà, l'excitation et donner le mot fétiche n'est pas un gros mot, mais ça permet l'avantage d'avoir pris conscience que ça m'excite et que c'est peut-être qu'il y a un fétiche. C'est un indicateur pour dire peut-être que maintenant que j'ai pris conscience que c'est ça qui m'intéresse, il y a peut-être un domaine qui l'entoure et peut-être justement je vais aller développer ce plaisir parce que par exemple j'aime par exemple les sous-vêtements rouges, admettons, on va être bien, bien précis. Si j'ai pris conscience que ça m'excite, et bien peut-être que je vais jouer de ça. Donc je vais prendre que des rouges, je vais prendre peut-être un peu bordeaux, je vais essayer de jouer un peu avec ce plaisir avec mon partenaire ou ma partenaire. Ou mes partenaires d'ailleurs, et ça permet de peut-être de structurer un peu son jeu, son plaisir, ce côté sexy, sexuel.
Oui, de pas rentrer dans cette routine sexuelle qui après on dit on n'a plus de désir, on n'a plus de libido, on n'a plus d'appétit sexuel, que si on va découvrir d'autres choses, on s'autorise à découvrir autre chose. Peut-être qu'on va animer différemment notre sexualité.
Et alors, pour explorer son fétiche, donc ça passe, tu disais, par un ou une ou des partenaires. Ça peut peut-être aussi passer par soi-même, tout seul. Je me dis aussi
oui,
dans
on
la
peut se découvrir,
masturbation, avec des images, du porno ou des sensations, des matières aussi. Ça peut être aussi intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent de dire, on peut tester. On peut tout de toute façon, mais ça peut être un moyen de commencer.
Alors, le fétiche, c'est un plaisir, sans être péjoratif, égoïste. C'est-à-dire que c'est...
La sexualité est un plaisir égoïste.
Exactement.
on va rester là-dessus, si tu veux. Donc, on sait pas...
Je suis tout à fait d'accord, mais ce n'est pas un gros mot, parce que souvent, on dit l'égoïsme, etc.
Oui, non, voilà. Dans la sexualité...
Ouais, exactement. Donc,
dans la sexualité, c'est utile, l'égoïsme.
Exactement. On est là pour se faire plaisir et faire plaisir à son partenaire. Mais le principal objectif, c'est se faire plaisir. Donc, en effet, lorsqu'on va porter une matière, par exemple, ou voir une matière, ou sentir une matière, une position, une odeur, etc., c'est pour se procurer procurer du plaisir. Donc à partir du moment où c'est assumé, où on découvre, où on cherche à trouver ces points d'affinité, oui, on est plutôt centré sur soi-même et apprendre à se découvrir. Des sensations particulières sur soi, qu'est-ce qui est érogène, qu'est-ce qui l'est moins. Donc tout ça, c'est, en effet, c'est très important.
Et après, ça passe aussi par les fameuses soirées fétiches.
Il y a aussi des soirées fétiches.
Est-ce que tu peux nous raconter tout cet univers, quand même?
Alors, moi, je vais pouvoir parler de ce que je connais, donc le milieu gay. Et un peu bi, mais c'est un peu plus loin pour moi. Il y a des soirées dites sociales où on va être là pour se rencontrer, donc on va pouvoir discuter, échanger, flirter, se draguer, rencontrer du monde, passer un bon moment festif autour d'un bar, où l'objectif, ça va être vraiment la rencontre, où il n'y aura pas de sexualité présente dans l'enceinte de l'établissement. Bon, on peut s'embrasser, des choses comme ça, mais ça n'ira pas plus loin. Donc ça, c'est dans la communauté fétiche, c'est assez intéressant. Il y avait un bar qui s'appelait dans la communauté gay qui s'appelait La Mine, qui faisait ça, et c'était très intéressant. C'était quelque chose de nouveau dans la communauté parisienne, en tout cas à ma connaissance, qui nous permettait justement de faire que du social. D'accord. Après, il y a d'autres soirées dites un peu plus cul ou assumées cul, où en effet, là, il y a du sexe. Donc il y a des zones d'échange social, comme dans tout espace. Et il y a des zones où on peut aller un peu plus loin. Donc ça peut être des pratiques soft, comme la fellation, le cuni, etc. Ou ça peut être un peu plus hard, avec des pratiques SM qui sont liées ou pas, d'ailleurs, à la première pratique. Donc il y a deux grands espaces, deux grands thèmes de soirée, sachant que la deuxième est privilégiée, puisque dans la communauté, on aime bien s'amuser.
Ok, d'accord. Mais dans les soirées, ça se passe dans des bars parisiens, c'est des soirées privées, parce que tu dis qu'il y a un moment social et un moment cul. Mm-hmm. Et ce moment cul, il est...
Alors, il y a des soirées privées. Je pense que tout le monde en fait un peu à droite, à gauche. Et après, suivant le thème de la soirée, ça peut être social ou pas. Il peut y avoir des partous, des choses comme ça qui sont à thème. Et après, là, je parlais plutôt du côté public, donc assumé avec de la publicité visible, etc., qui peuvent être faites dans un bar qui est aménagé pour, ou ça peut être un espace qui est loué et aménagé pour l'occasion pour effectuer des événements de ce type.
D'accord, donc il y a des petits coins câlins, ce qu'on appelle exprès dans les bars pour ça.
Il peut y avoir des aménagements faits pour, ou alors on va directement dans des bars faits. Donc ça peut être des bars libertins, ça peut être des cruising bars qui sont faits pour pouvoir justement être dans un environnement sécurisé avec des personnes qui sont comme nous, ou en tout cas qui sont intéressées par les mêmes choses.
Et c'est important aussi de préciser que c'est en général interdit de prendre des photos et des vidéos. Enfin, quand tu parles de sécurité, ça me fait penser à ça aussi, ma vie privée, ma vie sexuelle, ça peut être aussi le premier frein d'une soirée fétiche. Ça peut être de se dire, s'il y a des photos qui sont prises, j'ai pas envie de me retrouver sur les réseaux sociaux, j'ai pas envie qu'on voit que je me suis habillée comme ça, que j'ai eu de la sexualité avec quelqu'un, et ça, c'est important de le...
Oui, mais ça fait partie des règles, ça.
Alors, il y a des règles officielles et des règles officieuses. c'est-à-dire que c'est toujours pareil. C'est, quand on fait, par exemple, des soirées privées chez soi, etc., là, ça va être l'organisateur qui va dire, attention, il peut y avoir des photos ou pas, et qui va mettre sa norme de sécurité, en tout cas au niveau de l'audiovisuel. Quand on est dans des soirées officielles, extérieures, en général, il y a toujours des photographes des différents médias, gratuits ou pas d'ailleurs, présents, mais ils posent toujours la question, est-ce que vous voulez faire des photos ou pas ? Il y a des documents à signer pour en termes légaux, pour que ce soit bien carré. Donc ça, c'est quand c'est des photos non sexuelles. Donc ça va être regardé avec telle personne, et après ça apparaît en imprimé ou d'ailleurs en numérique. Et après, il peut y avoir aussi des soirées où il y a, c'est des photographes qui sont un peu, comment dirais-je,
dispatchés,
etc. Et on peut avoir, par exemple, des systèmes de reconnaissance où on dit je veux être photographié ou pas. Donc ça peut être un badge, ça peut être un foulard, ça peut être n'importe quoi, en disant bah laissez-moi tranquille, etc. Donc ça, c'est quand c'est un événement. Quand c'est une soirée un peu plus cul ou un peu plus tard dans la soirée, en général, les personnes font pas de selfie, ne font pas d'enregistrement vidéo, etc. Ou alors, si c'est le cas, c'est vraiment exclusif avec là où les partenaires qui sont consentants. De toute manière, le droit à l'image en France est très important, donc il faut faire très attention. Donc, en effet, quand on va dans un bar lambda, sans soirée, etc., mais un cruising bar, le téléphone est en général interdit. Pour éviter tout
ça. Je trouve ça important de le dire pour les personnes qui n'ont pas encore été dans ces soirées-là, qui sont curieux, curieuses, qui est cette sécurité-là.
C'est comme les clubs libertins, on n'a pas le droit non plus au téléphone, qui doit être rangé et pas utilisé pendant toutes les soirées. Ça, c'est un norme de respect de la vie de chacun et surtout du plaisir personnel de chacun et sur sa sexualité, quoi.
Et on est dans un univers où on est totalement addict au téléphone. Et si c'est pour aller dans un bar de rencontre et on est constamment sur son téléphone et on ne regarde pas ce qu'il y a autour, on perd l'intérêt aussi du cruising bar ou du bar en général.
Ouais.
On est là pour se rencontrer, on se déplace, on fait un effort en général pour les soirées fétiches d'être habillé. Et donc on attend la même chose de l'autre. Si c'est pour être constamment sur son téléphone, ça n'a aucun intérêt.
Non, bien sûr. Et il y a une autre chose dont je voulais parler dans les soirées fétiches, c'est la notion de consentement,
oui.
Qui est incroyable par rapport à des soirées lambda où on va juste danser en boîte de nuit. Il y a vraiment, moi j'en ai fait une à Rome, donc bah, c'est autre univers que la France, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a vraiment, on n'a pas les lourdingues de soirées, on peut juste danser sans forcément aller dans la sexualité, on peut juste s'habiller sans forcément se prendre des remarques sexistes, et ça c'est assez unique.
Même des attouchements.
Ou des attouchements. On peut être qui on est et sans forcément avoir de jugement de l'autre, sans être dans la sexualité.
Non, mais ça c'est toutes les pratiques... qu'il soit BDSM, que ça soit libertinage, que ça soit fétiche, dans toutes ces pratiques que l'on décrit, que l'on dit que c'est de l'orgie, que c'est dégueulasse, mais c'est les pratiques où il y a du consentement et que ça passe par ça. S'il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de pratique et les gens sont vite mis dehors. Hein.
Ouais.
Ils ne sont pas acceptés dans les soirées.
Alors, il y a toujours encore un besoin de faire évoluer ces mentalités où il y a certaines personnes qui se croient tout permis.
Oui.
Elles sont vite... identifié en général.
Ouais,
et souvent d'ailleurs dans le milieu fétiche et surtout BDSM, quand il y a par exemple des relations dominants soumis où il y a un master et un soumis, on a l'impression que le soumis est à mettre à dispo et on en fait ce que l'on veut. Sauf qu'il y a pareil, il y a une notion de respect et là il y a encore un travail à faire sur cette notion de consentement. Soit le consentement est délégué au master, au maître, et c'est lui qui dit OK ou pas, ou soit le soumis, de toute façon, a toujours son mot à dire à un moment ou à un autre.
C'était quelque chose qu'on avait déjà abordé justement avec l'école des cordes dans un épisode, qu'en fait, être soumis, et, c'est avoir encore... Enfin, c'est pas avoir plus de force, mais ça a une place, c'est vraiment à égalité de la personne qui domine dans la notion de consentement, etc. Exactement. Et souvent, justement, c'est plus dur d'être dominant parce que ça suppose faire extrêmement attention aux besoins de l'autre, aux sensations de l'autre, à la sécurité de l'autre. Ouais.
Bah, de toute façon, c'est quand même le soumis qui détient le mot de sécurité.
C'est ça.
Et qui, quand même, a le pouvoir, à un moment donné, de dire stop. C'est quand même des pratiques où on communique beaucoup, il ne faut pas l'oublier. Hein, c'est quand même des pratiques où la communication est essentielle. Sans communication, on ne peut pas aller dans ce genre de pratiques. Hein. Donc on en est bien loin dans toute la communication hétéronormée, où les gens ne se parlent pas parce qu'ils pensent que tout est une évidence. La sexualité est une évidence. Et que la sexualité, c'est un art qu'on va créer, avec des fétiches ou autre chose.
Le fétichisme est très mental. Donc que ça peut être spontané ou réfléchi, donc automatiquement on n'a pas cette relation immédiate physique comme tu disais dans la sexualité classique, c'est ce qui permet aussi certainement d'avoir une approche différente donc de respect, on va, enfin, ça me semble évident de quand une personne est dans un milieu sécurisé, de ne pas sauter sur la personne sans savoir ce qui va se passer, quoi.
Ouais.
Après, j'ai peut-être un rapprochement après un peu délicat, mais dans la rue, quand il y a de la drague forcée de rue, etc., on sait que si la personne fait pas suite, ben on la reverra pas. Quand on est dans un environnement, dans un bar sécurisé, si on commence un peu à faire jaser de son comportement ou embêter l'autre personne, automatiquement, on est dans un environnement clos, donc on se doit d'être bienveillant, bien pensant, etc. Donc c'est très important, cette notion de sécurité dans un environnement type bar ou soirée. De toute manière, il y a toujours un videur qui est là pour s'assurer la sécurité de chacun.
C'est très, très encadré.
Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver des soirées fétiches hétéro aussi pour amener nos auditeurs à aller découvrir ça.
Alors, il y en a plein. Hein. Il y a les soirées Démonia, très connues, qui sont fabuleuses. Il y a des soirées...
Mais on ne fait pas qu'une fois par an, les soirées Démonia.
Je crois que c'est deux, trois fois par an. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y en a quelques-unes. Et donc, il y a quand même des soirées aussi. Et puis, il y a des soirées partout en Europe, dans le monde. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant dans le milieu fétiche. C'est qu'on n'hésite pas à se déplacer pour aller dans ces environnements. C'est-à-dire que moi, je sors, je sais pas, 5 à 15 fois par an en dehors de la France pour aller dans des événements type fétiche, rencontrer du monde, des nouvelles personnes, et du coup, je fais le tour du monde. On en discutait en aparté tout à l'heure des vacances, et en fait, souvent, mes vacances, c'est lié à des soirées, à des événements dits fétiches, donc ça peut être un peu partout dans le monde, quoi. Donc c'est très agréable, et c'est aussi une motivation pour dire, bah tiens, je connais pas cette ville, tiens, il y a un événement, et ben on va lier le culturel.
Le culturel, c'est pas mal, ça.
Comment aller découvrir le monde?
Et alors, pour terminer, Kevinio, quel message, en tout cas, tu aimerais porter, livrer à nos auditeurs et nos auditrices?
Ce n'est pas sale. non, le fétichisme, c'est quelque chose d'atypique. C'est des sensations qui sont extraordinaires. Il faut communiquer avec son ou ses partenaires. Il faut pas hésiter à solliciter l'intérêt sur quelque chose de différent. Le plus important, c'est de bien communiquer et d'essayer de comprendre les sensations nouvelles que l'on peut avoir ou assumer et qu'on veut développer. Et après, ça peut passer par les réseaux, ça peut passer par les boutiques, ça peut passer par les amis. C'est aussi intéressant d'en discuter avec des gens qui sont du milieu et hors milieu, pour voir justement un peu les différents aspects que l'on peut avoir. Faut savoir prendre du recul, et le plus important, c'est de se faire plaisir
et de s'amuser.
Et de s'amuser.
Merci beaucoup, Kevinio. Bah, vraiment, chers auditeurs, chères auditrices, peut-être vous avez déjà été convertis, vous êtes déjà fétichiste, peut-être pas encore. Bah, explorez, il y a énormément de soirées, et pas que à Paris, comme tu disais, partout dans le monde, mais aussi partout en France. Donc si vous avez envie de découvrir cela, explorez, ne vous jugez surtout pas et amusez-vous. Et à très vite.
C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de Grand Contrôle en partenariat avec le magazine Causette.